Enjeux de santé, le magazine Prévention Santé de Radio Campus Rennes.
En partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et la Région Bretagne.
Bienvenue à tous dans Enjeux de santé. Au programme de cette première émission de l'année 2015, nous prenons le temps de considérer une question peu abordée dans l'espace public, les conséquences sur la santé des violences faites aux femmes. Cette émission fait suite à notre rencontre avec l'association rennaise Questions d'égalité, laquelle œuvre en faveur d'une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Le ton employé ne sera peut-être pas du goût de tout le monde, car en effet, l'association revendique explicitement sa lecture féministe, donc politique, des rapports de genre. Pourtant, si on est en droit de ne pas partager les revendications portées par Questions d'égalité, la mission qu'elle s'est fixée a tout de même retenu notre attention. Cette mission, c'est la possibilité de transformer réellement les rapports de genre dans notre société par la diffusion au plus grand nombre des analyses qui discutent les enjeux de justice sociale derrière les rapports femmes-hommes. Pour en parler, j'ai donc rencontré Isabelle Pinault de Questions d'égalité afin de mieux comprendre les actions de l'asso et les raisons qui les ont poussées à s'intéresser aux conséquences sur la santé des violences faites aux femmes. On est notamment revenu sur un lien pas tout à fait évident à établir entre le souci politique de l'égalité femmes-hommes et un éclairage des conséquences sur la santé des violences sexuelles par les neurosciences.
Questions d'égalité, elle a été créée en avril 2010. L'objectif, c'était de diffuser les connaissances sur les inégalités à tous les publics. On était en fait plusieurs à se dire qu'il était important de diffuser les connaissances sur les inégalités au-delà des milieux militants et universitaires à tous les publics, parce que nous, on venait à la fois du milieu militant, féministe, et pour ma part, j'avais une formation de sociologie avec un master spécialisé sur le genre et les politiques sociales.
Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu les différentes facettes de l'association ? Qu'est-ce que vous proposez comme type d'activité ?
Pour diffuser ces connaissances, on utilise différents outils. On propose les conférences qui sont à destination du grand public où on invite une spécialiste d'une question autour des inégalités ou des violences faites aux femmes. Et donc, depuis la création de l'association, on a organisé 22 conférences qui réunissent entre 40 et 170 personnes en fonction du thème, de l'intervenante, etc. Et donc, ces conférences ont lieu à Rennes. Elles sont ouvertes à toutes et tous, gratuites et soutenues par les pouvoirs publics. On a organisé des conférences sur les médias sont-ils sexistes, tout un cycle de conférences autour de la culture, le sexe de la culture, par exemple. Une analyse du cinéma, des films français actuels, et des normes et des représentations des hommes et des femmes véhiculées dans le cinéma. Une conférence sur la chanson française aussi, une conférence sur la danse. La personne qu'on a invitée, c'est Hélène Marquier, qui est danseuse, chorégraphe et également chercheuse à l'Université Paris 8 et qui travaille sur cette question-là depuis longtemps. On a fait aussi tout un tas de conférences sur la question des violences à l'encontre des femmes, donc les violences dans l'espace public, sur la question du harcèlement de rue, la question du harcèlement sexuel au travail. Les violences au travail, la question de la justice, comment la justice traite des violences conjugales en particulier. On a aussi invité Christelle Hamel sur à quoi servent les chiffres sur les violences, une analyse critique en fait des enquêtes de victimologie, des enquêtes qui permettent de quantifier en fait le phénomène des violences faites aux femmes. Beaucoup de conférences sur les violences parce que c'est un thème qui nous tient à cœur et qui est très relié au contexte des inégalités sociales, hommes-femmes. Donc pour nous, c'est on ne souhaite pas séparer en fait la question des violences de la question des inégalités professionnelles, des inégalités au sein de la famille, à l'école, etc. Tout est relié, ça fait système. Ensuite, on organise des formations, donc on conçoit et on anime des formations, moi et ma collègue Rosane. Des formations qui sont sur différents thèmes. On a une formation de base sur les inégalités, d'où ça vient, pourquoi ça continue, une formation d'une journée, ouverte à toutes et tous. Et puis ensuite, on a des formations plus spécifiques sur le travail social, le genre dans le travail social, l'animation socioculturelle, des formations sur l'implication des femmes dans la vie locale. Donc pour des personnes qui travaillent sur des territoires et qui essaient de faire que les projets de territoire soient aussi...
prennent en compte finalement la dimension du genre.
Voilà. Ouais. Et ne renforce pas les inégalités voilà. entre les femmes et les hommes.
Alors, en invitant Muriel Salmona, il y a donc eu un lien qui a été fait avec la santé des ouais. femmes et donc les conséquences sur la santé des violences faites aux femmes. C'est un sujet qu'on voit encore assez peu circuler dans l'espace public. Mmh. D'où vous est venue cette envie d'aborder ce sujet quand même assez délicat ?
Alors pour nous, c'est un sujet qui est très important, premièrement parce qu'on sait que on sait en fait que les victimes de violences, et en particulier de violences sexuelles, rencontrent peu de bons thérapeutes dans leur parcours pour se réparer. Ouais. En fait, ce qu'elles rencontrent, c'est parfois des thérapeutes qui vont minimiser les conséquences des violences qu'elles ont subies, ou alors des thérapeutes qui vont analyser ça sous l'angle psychanalytique, en évoquant les concepts de fantasmes de viol, ce qui ne fait pas du tout de bien aux victimes. Il y a souvent de la mobilisation du concept de co-responsabilité dans les violences qui engendre chez les victimes de la culpabilisation. Ce qui est fou parce qu'en fait, c'est vraiment l'objectif d'un agresseur. L'agresseur, c'est de renverser la culpabilité et de faire comprendre à la victime que c'est elle qui l'a bien cherché, qui l'a voulu, qui l'a énervé, etc. Mmh. Tout le travail de soin, normalement, ça doit être de repositionner ça et de dire que la victime n'est en aucun cas responsable des comportements violents qu'elle a subis.
Sur la question des neurosciences qui ont été convoquées par Muriel Salmona oui. et le lien avec la critique féministe, donc, que je trouvais en fait pas forcément évident de premier abord.
Ouais. Alors, en fait, elle, son travail, c'est médecin psychiatre. Elle connaît les conséquences psychotraumatiques des violences. Elle le détaille. Elle explique en fait que dans notre société, les violences sexuelles s'exercent majoritairement sur les femmes. Dans la conférence, vous retrouvez tous les chiffres qui expliquent en fait, qui démontrent que c'est les femmes qui sont en majorité victimes de violences sexuelles. Et elle explique que ces violences sexuelles ont des conséquences sur le fonctionnement du cerveau ensuite. Pour pouvoir survivre, il est nécessaire de pouvoir disjoncter. Elle explique très bien mieux que moi. Donc,
c'est pour ça qu'on l'a invité.
C'est pour ça qu'on l'a invité. Et pour nous, c'est pas forcément incompatible de mobiliser les neurosciences pour comprendre les réactions des personnes qui ont subi des violences. Mmh. Des violences qui sont sociales. Mais ça a des conséquences sur notre santé, et y compris sur notre santé psychique.
Retour d'Enjeux de santé sur Radio Campus Rennes après le titre « Je ne suis là pour personne » de Lise Laszlo. Nous revenons sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir les conséquences sur la santé des violences faites aux femmes. Le 2 décembre 2014, Question d'égalité invitait donc Muriel Salmona pour une conférence portant sur les conséquences sur la santé des violences faites aux femmes. Muriel Salmona est psychiatre spécialisée en psychotraumatologie et est présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Cette association, créée en 2009, est une association d'intérêt général pour la formation, l'information et la recherche sur les conséquences psychotraumatiques des violences. Ses objectifs principaux sont les suivants. améliorer l'identification, la protection et la prise en charge des victimes de violences. L'association entend mettre en œuvre ses objectifs par une meilleure information du public et par la formation des professionnels impliqués, en améliorant notamment l'orientation et l'accès à des soins spécialisés de qualité aux victimes de violences et en enrichissant la compréhension des conséquences des violences afin d'améliorer leur prévention. Ainsi, l'association s'intéresse à tous les types de violences susceptibles de porter atteinte à la santé physique et ou mentale des personnes. Avant de voir en quoi la question des conséquences sur la santé des violences faites aux femmes n'est pas qu'une affaire sanitaire mais bien politique, tentons d'abord de voir ce que racontent les données disponibles actuellement.
Les chiffres sont énormes. On sait que c'est les chiffres qui sont forcément minimisés. Les enquêtes sont faites de telle façon qu'elles vont toucher... Alors déjà, souvent on oublie les filles. C'est-à-dire qu'on parle des femmes à partir de 18 ans, les enquêtes, 83 000 viols par an, ce chiffre qu'on entend régulièrement, c'est que des femmes adultes jusqu'à 70 ans. C'est que des femmes qui ont pu être contactées aussi par téléphone. C'est-à-dire que toutes celles qui sont un peu plus exclues, un peu plus marginales, ne vont pas rentrer dans ces chiffres-là. Or, on sait que si on est en situation de handicap, en situation d'exclusion, en situation de discrimination, on subit beaucoup plus de violences. Les femmes handicapées subissent 4 fois plus de violences. Et elles rentrent très rarement dans les statistiques. Donc 83 000 femmes qui subissent des viols et des tentatives de viol par an. Mais on sait que c'est au moins 60% des viols qui sont commis sur des mineurs. C'est-à-dire que la majorité des viols sont commis sur des mineurs. Donc il faudrait rajouter 120 000 viols sur des filles, moins de 18 ans. Et là, on se retrouve avec plus de 200 000. Et si on rajoute les viols sur les garçons et sur les hommes, on arrive à des chiffres autour de 240 000 viols par an. Donc c'est monstrueux. On a fait une enquête sur 1200, enfin il y a 1400 réponses sur un questionnaire sur d'auto-évaluation sur les violences sexuelles, sur l'impact et sur la prise en charge, sur les conséquences psychotraumatiques. On a posé plus de 180 questions à des personnes. On a eu 1400 réponses. Il y en a 1200 qui ont pu être traitées de façon statistique. Et là où on ne s'attendait quand même pas à ça, sur les 1200 personnes qui ont répondu, les premières violences ont commencé pour 75% de ces 1200 personnes. Elles ont commencé avant 17 ans. Pour 50% avant 11 ans. Pour 30% avant 9 ans. Pour 17% avant 5 ans. Ça, c'est la réalité du viol et des violences sexuelles.
Les lacunes de la construction des statistiques publiques relatives au nombre de viols sont régulièrement mises en lumière par les médias ou les universitaires. Il faut en effet rappeler que ces chiffres reposent pour une large part sur les déclarations faites par les victimes aux services de police. Or, de ce point de vue, on sait que seuls 10% des victimes de violences sexuelles déposent plainte. Les femmes sont en revanche environ 30% à solliciter leur médecin traitant pour signaler des violences. Le second outil à disposition sont les enquêtes de victimation, qui, elles, reposent sur une base déclarative insatisfaisante pour les spécialistes de la méthodologie de ce type d'enquête. Les difficultés à établir des statistiques précises sur le nombre annuel de viols, la complexité des procédures judiciaires dans la reconnaissance des violences et la rareté des dispositifs d'accompagnement permettent de poser la question des inégalités hommes-femmes. C'est très précisément ce qu'entendait faire Muriel Salmona en défendant l'hypothèse suivante. Mieux l'on comprend les mécanismes psychotraumatiques induits par les violences sexuelles, mieux l'on peut éclairer en quoi les fondements juridiques et médico-sociaux de la lutte contre les violences contribuent à accentuer les inégalités femmes-hommes. Petite précision. Les propos de Muriel Salmona s'appuient notamment sur une enquête qu'elle a pu réaliser auprès de 1400 personnes à travers un questionnaire comprenant plus de 150 questions.
Plus les personnes sont en situation de handicap, plus les personnes sont en situation de vulnérabilité, moins elles sont protégées. C'est vraiment, ça apparaît dans le questionnaire, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est effarant, voilà. C'est-à-dire qu'en termes d'absence de solidarité, d'absence de protection, là, on est dans le summum. Donc, depuis 20 ans, on a des études vraiment qui se sont multipliées, qui montrent que l'impact sur la santé est très lourd. Et ce n'est pas simplement l'impact sur la santé mentale. Ça, je vais vous parler des conséquences psychotraumatiques, avec l'impact aussi, un impact neurobiologique, neurologique. Mais c'est aussi l'impact sur la santé, avec un impact cardiovasculaire. C'est une des premières causes Une des premières causes de troubles cardiovasculaires, c'est d'avoir subi des violences. Donc on s'aperçoit d'un seul coup que les femmes seraient sensibles un peu au stress et auraient plus facilement, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler d'études comme ça, auraient plus facilement des problèmes d'ischémie, myocardique, etc. Bah, pourquoi ? Ce n'est pas une question d'hormones, etc. C'est une question de violence. Et c'est pareil pour beaucoup de troubles psychiatriques. On sait que 60% des troubles psychiatriques sont liés aux violences. Toute une pathologie était réputée être une pathologie qui était surtout développée par les femmes, avec des troubles de la personnalité, les hystéries, etc. Sauf que c'était des symptômes qui, en fait, étaient directement des symptômes liés aux violences. Et que ce n'était pas dans la nature des femmes d'avoir ces symptômes-là, c'était parce qu'elles subissaient plus de violences. Et on s'est aperçu que les femmes avaient plus de troubles psychotraumatiques que les hommes, dans la population générale. Les hommes ont à peu près 5% de troubles psychotraumatiques dans la population générale, et les femmes, c'est plus de 15 à 20%. Alors là aussi, c'était la réponse, ce n'était pas parce qu'elles subissent plus de traumas, c'était parce qu'elles sont plus fragiles face aux traumas. Il y a toujours la nature des femmes, l'essence, il y a toujours cette essentialisation qui revient pour dire qu'elles seraient plus fragiles, elles sont plus sensibles, elles supportent moins. Ben non, c'est simplement qu'elles subissent plus de violences et plus de violences qui ont des très lourdes conséquences psychotraumatiques. Les conséquences ne sont pas liées aux personnes, ce sont des conséquences normales liées à des violences. On est dans une situation où en fait, on se retrouve avec des personnes qui vont avoir des impacts sur leur santé très importants. On ne va pas reconnaître ces impacts-là, on ne va pas les identifier, on ne va pas faire de lien, et ça sera à elles de se débrouiller toutes seules pour pouvoir survivre et mettre en place des stratégies de survie qu'en plus on va leur reprocher. C'est-à-dire que les conséquences qui sont les conséquences, ce qu'on appelle nous, dans notre jargon médical, pathognomoniques, qui sont vraiment des conséquences qui prouvent le trauma, sont souvent renvoyés aux victimes comme des éléments qui vont disqualifier leurs paroles. Et si en fait on tient compte d'un seul coup de leurs symptômes, alors là ça se passe mal aussi pour les victimes, parce que alors là on va les diagnostiquer comme schizophrènes, on va les diagnostiquer comme ayant des psychoses maniaco-dépressives, borderline, troubles de la personnalité graves, voire Alzheimer. Quand elles sont âgées, on va voir pourquoi. Si jamais elles vont vraiment très mal, là on a un retour autour de la notion de psychose avec des traitements souvent extrêmement lourds qui vont en fait les faire taire d'une certaine manière, qui vont être très très efficaces aussi pour les faire taire. Donc voilà, donc ce qu'on demande aux victimes dans l'ensemble, c'est d'avancer, de serrer les dents, de rien dire, de rien faire ou de disparaître. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de suicides malheureusement ou d'accidents. Et puis, si elles ne disparaissent pas, il ne faut pas qu'elles fassent de vagues. Les conséquences, on les a longtemps pensées comme uniquement psychologiques, avec un impact et un choc. Et donc, les femmes auraient été plus sensibles à ce choc. En fait, c'est des conséquences qui ne sont pas uniquement psychologiques, qui sont aussi neurologiques, avec une atteinte neurologique, et des atteintes neurologiques qui peuvent même être très importantes, qui peuvent atteindre certaines structures du cerveau, peuvent perdre jusqu'à 30% de leur volume en cas de violence, particulièrement les violences sexuelles. Et que des circuits, le circuit de la mémoire et le circuit des circuits du stress et les circuits émotionnels vont être très impactés. On a des nouvelles études qui ont démontré aussi qu'il pouvait y avoir des atteintes épigénétiques, c'est-à-dire des modifications de gènes. Le gène NR3C1, qui est un gène de régulation de la sécrétion de cortisol. Et donc il y a un gène qui, en fait, module la réponse au stress. Et que si on a vécu un stress extrême avec des violences, eh bien, on va être encore plus sensible au stress, on va être encore plus impacté. Donc, en fait, avec un système qui va s'auto-aggraver et qui peut passer d'une génération à l'autre. Donc, ça, c'est les atteintes épigénétiques. Et on a des atteintes aussi au niveau du cortex, du cortical, qui ont. On a montré qu'avoir subi des violences sexuelles dans l'enfance, suivant les zones qui ont été impactées par les violences, par exemple la zone génitale, souvent, la zone corticale qui correspond à la zone génitale va être beaucoup plus amincie que pour quelqu'un qui n'a pas subi de violence. Et que plus les violences ont été commises tôt, plus elles ont. S'il y a eu pénétration, l'amincissement va être beaucoup plus important. Donc en fait, on voit sur le cerveau l'impact, les séquelles qu'ont entraîné les viols. C'est impressionnant. Et ça peut être aussi la zone orale. On n'est pas fait pour subir des violences. On n'est pas fait pour subir un stress extrême. On a des mécanismes de sauvegarde exceptionnels qui vont se mettre en place, mais ils vont être extrêmement coûteux. Et c'est eux qui vont être à l'origine des troubles psychotraumatiques. En fait, on a tout un système qui réagit au danger. On a une alarme émotionnelle qui est une petite structure qui s'appelle l'amygdale cérébrale, qui est au niveau du cerveau, qui est une structure qui n'est pas consciente, qui est automatique, qui s'allume pour pouvoir nous avertir d'un danger et pour pouvoir en fait nous préparer à un danger en sécrétant des hormones de stress, adrénaline, cortisol. Donc ces hormones de stress font qu'on mobilise de l'oxygène, du glucose, et on a le carburant en fait pour pouvoir toute l'énergie qui va pouvoir être utilisée si on en a besoin. Ça, c'est ce qui se passe normalement. Et cette alarme, cette amygdale cérébrale, ce qui est important, c'est que comme toute alarme, quand elle est allumée, elle ne s'éteint pas toute seule. Et que c'est en fait le cerveau, c'est le cortex, c'est la table de travail du cerveau qui permet d'analyser ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe. Et aussi l'hippocampe, qui est un logiciel, qui est un système d'exploitation qui permet en fait de pouvoir mobiliser la mémoire, les apprentissages et puis le repérage temporo-spatial. C'est tout ces cortex plus hippocampe qui vont analyser la situation, qui vont pouvoir moduler, voire éteindre la réponse émotionnelle. Et ça, c'est essentiel parce que c'est ce système-là qui va complètement dysfonctionner au moment des violences. C'est-à-dire que lors de violences, vous êtes confronté à quelqu'un qui a une intentionnalité de détruire et que ça déclenche effectivement une réaction émotionnelle avec un allumage de cette amygdale cérébrale. Mais le problème, c'est qu'ensuite, le cortex et l'hippocampe ne vont pas suivre. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas fait pour être confronté à quelqu'un qui veut vous faire autant de mal. Et ça bloque, ça fait bugger le cerveau. Et c'est ce qu'on appelle la sidération. C'est-à-dire que, et on le voit sur des IRM, le cerveau, en fait, se paralyse. C'est-à-dire qu'il est bloqué par cette situation-là, qui est complètement incohérente, insensée, qui est irreprésentable. Il y a cette paralysie du cortex qui fait que la personne ne va pas pouvoir réagir, ne va pas pouvoir crier, ne va pas pouvoir se défendre. Et c'est ce qu'on va reprocher aux victimes. C'est cette sidération qu'on va leur reprocher. On va dire, mais pourquoi t'es pas parti ? Vous n'êtes pas parti, la porte elle n'était pas fermée à clé. Pourquoi vous n'avez pas crié ? Pourquoi vous n'êtes pas défendu ? Bah, en fait, l'agresseur a fait quelque chose de tellement énorme, de tellement fou, que du coup, ça a eu cette conséquence-là sur la victime. Et les agresseurs deviennent souvent des maîtres en art de sidérer. Et c'est là que, comme dans un circuit électrique qui est en survoltage, qui va faire griller tous les appareils, eh bien, le cerveau a un joker, en quelque sorte, qui va être de faire court-circuiter le système, de faire disjoncter le système. C'est le seul moyen. C'est-à-dire que l'amygdale cérébrale, c'est une alarme, elle ne va jamais s'éteindre toute seule. Donc il faut en fait la court-circuiter, elle va rester allumée, mais elle ne va plus pouvoir commander la sécrétion d'adrénaline et de cortisol. Et cette disjonction, c'est elle qui va être à l'origine de la dissociation. C'est-à-dire, d'un seul coup, comme quand ça disjoncte, il n'y a plus de réponse émotionnelle. Et du coup, elle se retrouve d'un seul coup comme si elle était à côté de l'événement, comme si c'était irréel, comme si elle était spectatrice de l'événement, comme si elle était extérieure à l'événement. Et cette dissociation, qui est une dissociation de survie, qui peut durer quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques mois, quelques années, c'est-à-dire que le fait d'être confronté continuellement à des violences va faire que la personne va être tout le temps dissociée. Et elle va être tout le temps déconnectée, tout le temps à côté, tout le temps anesthésiée, jamais elle-même en quelque sorte, comme vide d'elle-même, avec une sorte de sentiment de dépersonnalisation ou de ne plus être dans son corps, comme si son corps n'était plus à soi. Et que cette situation de dissociation, ça va être aussi reproché aux victimes. Ça va faire que d'autant plus personne ne va protéger les victimes, parce qu'elles ne sont pas du tout comme celles qu'on attendrait d'être. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas exprimer d'émotions, et plus elles ont été traumatisées, plus elles vont être comme ça déconnectées. Elles sont déconnectées aussi au niveau du circuit de la mémoire. C'est-à-dire que le fait que l'amygdale soit complètement court-circuitée et isolée, tout ce qui a été ressenti, tout ce qui a été vécu au moment des violences, normalement, quand vous vivez les choses, au fur et à mesure, tout ça, ça s'intègre grâce à l'hippocampe, qui va en fait faire que vous allez mémoriser ce que vous êtes en train de vivre. Et vous le mémorisez en l'identifiant. Là, en fait, à partir du moment où c'est complètement court-circuité, l'hippocampe, si l'hippocampe n'est pas là comme système d'exploitation, tout est enregistré dans une boîte noire, qui est l'amygdale, sans pouvoir identifier qui a dit quoi, qui a fait quoi, quel jour c'était, à quel moment, etc. C'est-à-dire que le logiciel de la mémoire qu'est l'hippocampe et le logiciel du repérage temporo-spatial qu'est l'hippocampe est déconnecté. Et alors là aussi, ça va tomber aussi par rapport à la police, parce que, alors vous nous dites que c'est à quelle heure ça a commencé, et puis là précisément, c'était quel jour? J'ai comme ça une patiente qui était avocate, qui a été violée un soir, qui a été dans un tel état de dissociation ensuite, et en plus elle était confrontée, c'était un voisin, donc elle le voyait tous les jours, donc elle restait complètement dissociée, c'est que quand elle a pu déménager, parce que des amis l'ont aidé à déménager, qu'elle est sortie de sa dissociation, et c'est là où elle a pu porter plainte, 6 mois après. Et quand vous êtes avocate et vous portez plainte 6 mois après des faits de viol, là vous pouvez toujours essayer, c'est-à-dire ça ne marche absolument pas. Et elle ne pouvait pas dire quel jour c'était. Or, c'est aussi le délire, là, par rapport à la défaite, pour vraiment, souvent, dans ces cas-là, il y a la police veut absolument un jour, une heure, un endroit précis, etc. Ce que les victimes ne vont pas pouvoir dire. Et qui est plutôt une preuve de la gravité de ce qu'elles ont vécu, mais ça va être, au contraire, perçu comme « elles racontent n'importe quoi, c'est pas vrai, de toute façon, elles ne sont pas capables de préciser les choses ». Et cette situation de court-circuitage de la mémoire fait que tout l'événement va rester bloqué dans l'amygdale cérébrale, dans cette boîte noire. Et tout cet événement-là, complètement comme un magma de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été ressenti, de tout ce qui a été perçu, de tout ce qui a été entendu, de toutes les douleurs, de toute la détresse, etc., ça va rester bloqué à l'intérieur de cette amygdale-là. Et avec une amygdale qui a été, comme quand elle est traumatisée, elle devient hypersensible. Et ensuite, le moindre lien va réveiller cette amygdale-là et va faire que la personne va revivre à l'identique l'événement, tout ou partie de l'événement. C'est comme une machine à remonter le temps qui va faire qu'on va revivre les choses, comme elles ont été vécues. Elle va être complètement renvoyée au moment où elle a subi les violences. Et c'est très particulier parce que si vous avez subi des violences... Et il y a 3 mois, et vous êtes comme ça, vous avez cette machine à remonter le temps qui va vous faire revenir 3 mois à l'avant. Bon, les choses n'ont pas tellement bougé. Mais si vous, à 30 ans, d'un seul coup, les violences que vous avez subies à 5 ans remontent, vous allez vous retrouver comme quand vous étiez à 5 ans, avec exactement les mêmes sensations, la même perception des choses. En plus, cette mémoire traumatique... Elle contient non seulement ce qui a été ressenti, ce qui a été vécu au moment des violences, mais elle contient l'agresseur. Du coup, tout est rentré dans la boîte noire qui enregistre. Donc il y a les paroles de l'agresseur, il y a sa haine, il y a son mépris, il y a son excitation perverse qui vont faire partie intégrante de cette mémoire traumatique et qui vont ressortir aussi. Et pourquoi les victimes, elles se sentent autant coupables? Alors bien entendu, il y a le fait que toute la société les culpabilise, mais elles ont les paroles de l'agresseur qui les renvoie, comme habituellement, de toute façon c'est de ta faute, tu l'as mérité, c'est toi qui l'as cherché, tu m'as allumé, tu ne mérites que ça, tu vaux rien, etc., qui tourne en boucle. Et ça, ça revient. Et ça revient hanter la victime. Et toutes les paroles assassines, ensuite, font partie de cette mémoire traumatique. Et toute la haine de l'agresseur fait partie de la mémoire traumatique. Et c'est comme ça que les victimes se retrouvent à se haïr. C'est pas elles qui se haïssent, c'est l'agresseur en elles qui continue à les haïr.
Ne nous y trompons pas, ce type de conférence n'est pas seulement fait pour diffuser du savoir de façon totalement désintéressée. Il s'agit de poser les bonnes questions pour réfléchir sur la pertinence des pratiques à venir. On revient sur ce point en compagnie d'Isabelle Pinault, représentante de l'association Questions d'égalité.
Là aussi où on retrouve un peu votre rôle un peu de formatrice finalement aussi quelque part, c'est qu'il y avait quand même des ouvertures dans la conférence faites sur penser de nouveaux projets d'accompagnement pour les personnes et en fait cesser de continuer à fonctionner dans un système où... les gens sont victimes de violences et le système social qui leur permettrait de sortir de tout ça reproduit des inégalités hommes-femmes en fait, nie complètement les apports de la neuroscience dans la compréhension du psychotrauma finalement.
C'est ça. Nous, c'est vraiment ça. Enfin, on veut diffuser des connaissances pour que ça change.
Bien sûr.
C'est ça l'objectif. C'est pour ça que ça nous tient à cœur de comprendre ce qui se passe, mais aussi du coup de pouvoir trouver des moyens de faire autrement. donc de changer des pratiques. Mmh. On est assez contente de la fréquentation de la conférence, qui avait 170 personnes, et il y avait aussi des psys et des professionnels de santé dans la salle. D'accord. Et ça a dû... Enfin, c'est important pour nous parce que c'est des personnes qui vont aussi travailler à revoir leurs pratiques en fonction de ce qui a été dit sur ces conséquences psychotraumatiques. En fait, on a souhaité organiser cette conférence en partenariat avec Prendre le droit, qui est une nouvelle association rennaise qui souhaite accompagner les victimes de violences sexuelles et de viols, aussi dans leur parcours judiciaire. Actuellement, les victimes ont peu d'interlocuteurs ou d'interlocutrices formés pour les accompagner vraiment dans le parcours du combattant ou de la combattante, qui est le dépôt de plainte, puis ensuite les enquêtes.
Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, il y a un peu... On remarque qu'il y a une espèce d'un peu d'injonction au dépôt de plainte. Aujourd'hui, je trouve personnellement que les argumentaires féministes ou même... qui circulent dans l'espace public sont vachement axés sur le fait qu'il faut déposer plainte, ça devient comme une obligation. Et c'est là que vient se placer justement l'asso dont tu nous parles, c'est qu'elle accompagne les gens pour faire ce travail. Mm-hmm. Parce que finalement, le dépôt de plainte ne règle rien en lui-même, ça veut juste mettre le pied dans un engrenage hyper complexe par ailleurs.
Tout à fait, exactement. C'est vrai que l'association prend acte du fait que la justice... broie les victimes.
Ah, faut le dire.
Et donc, il ne suffit pas de demander aux victimes de porter plainte pour que les choses soient réglées. Il faut aussi accompagner les victimes dans leur dépôt de plainte, dans l'écriture de leur récit, pour qu'il soit le plus précis possible, le plus circonstancié, pour qu'il soit le plus compréhensible aux professionnels de la justice. Mmh. Il faut ensuite leur aider à comprendre comment fonctionne la justice. C'est extrêmement complexe. Il faut les préparer à passer devant un tribunal, parce que souvent, la justice demande beaucoup... aux victimes, et parfois dans les tribunaux, on doute autant de la parole de l'agresseur que de la parole de la victime. C'est le fonctionnement de la justice, c'est normal. Mais du coup, là, ça peut être extrêmement violent pour les victimes.
Qui sont déjà vulnérables du fait d'être victimes.
Voilà. Donc il faut vraiment... c'est extrêmement nécessaire de les accompagner, en fait, de les soutenir. En ne créant pas d'illusions chez elles sur le fait que simplement parce qu'elles portent plainte, elles vont être réparées ou leur parole va être entendue. Mmh. Ça peut être une nouvelle violence institutionnelle que de vivre un procès. Donc pour nous, c'était important d'associer Prendre le droit à cette conférence. Premièrement parce que les personnes de Prendre le droit connaissent le travail de Muriel Salmona sur les conséquences psychotraumatiques des violences sexuelles et donc prennent en compte cette donnée-là quand elles accueillent les victimes. Elles peuvent interpréter du coup leur parcours personnel avec ces conséquences-là. Pour Prendre le droit, une victime, pour se réparer, elle a beaucoup plus de chances de se réparer quand la société a reconnu qu'elle était effectivement victime.
Pour ceux qui seraient intéressés, nous avons demandé à Isabelle Pinault de nous présenter le programme de l'association Questions d'égalité pour le premier semestre 2015.
Une des prochaines formations qui nous tient à cœur, ça aura lieu en mars. C'est une formation qui dure 2 jours, il y a 15 places, et ça s'appelle « Favoriser la participation réelle et continue des femmes à la vie locale ». Pour les professionnels, les collectivités territoriales, les élus, les chargés de développement local, etc. Ensuite, un événement grand public, donc ça va être une soirée le 18 mars prochain à Rennes, à la Maison internationale de Rennes. Mmh. Sur la répartition de la parole entre les hommes et les femmes dans les espaces mixtes. Parce que le thème proposé par la ville de Rennes pour le 8 mars, pour les manifestations autour du 8 mars, c'est prendre la parole et agir. Et nous, on voulait vraiment parler de notre constat que dans les espaces mixtes, la parole revient majoritairement aux hommes, et avoir la parole, c'est avoir du pouvoir. C'est pouvoir influencer, influer sur des décisions, influer sur beaucoup de choses. Et puis on veut que ça soit une soirée un peu particulière, pas une soirée conférence, justement parce que comme c'est autour de la parole et du partage de la parole, on a envie de proposer à la fois comme dans une conférence des savoirs théoriques, mais aussi des espaces d'échange, de débat en atelier pour essayer d'élaborer ensemble des petites stratégies pour reprendre la parole.
C'était un jeu de santé sur Radio Campus Rennes. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur www.radiocampusrennes.fr. Vous pouvez retrouver l'association Question d'égalité sur www.questiondegalite.org.